Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'esprit public de retour avec nos visiteurs du dimanche confinés, mais plus que jamais pertinents. Cette semaine, les journalistes Sylvie Kaufmann et Gérard Courtois, le géopolitologue Thomas Gomard et l'essayiste Philippe Manière, sans oublier mon camarade Emmanuel Laurentin, qui avec les équipes du Temps du Débat fait vivre en ce moment la conversation mondiale, un nouveau module des intellectuels de tous les continents qui nous envoient leur regard, leur réflexion sur cette période historique que nous vivons, morceau choisi à la fin de cette émission. Le 11 mai est donc en France notre nouvel horizon, le début de notre déconfinement. Pas du tout le grand soleil après un ciel d'orage, mais plutôt un brouillard qui deviendrait juste un peu moins épais. Car au fond, lundi soir, ce qu'ont observé 36 millions de téléspectateurs français, c'est un président de la République qui reconnaissait implicitement ne pas tout savoir sur la suite, ne pas savoir si la décrue épidémique observée ces derniers jours est irréversible, ne pas savoir si les personnes contaminées sont ensuite définitivement immunisées, ne pas savoir si les enfants sont porteurs ou non du virus. Ne pas tout savoir et devoir néanmoins prendre des décisions politiques, afficher l'assurance du chef, la continuité de l'État, confronté à une crise sanitaire mais aussi à une crise économique déjà vertigineuse, qu'il s'agisse des chiffres de la récession, de ceux du chômage ou des déficits. Vertigineuses aussi les aides publiques dans les pays comme le nôtre, où l'État dit Providence doit tenir ses promesses, par la prise en charge des salaires avec le mécanisme du chômage partiel, des plans de sauvegarde, des suppressions ou des reports de charges. Le Covid, expérience d'un désarroi, sanitaire, économique, politique, le globe se découpant désormais en deux catégories, ceux qui ont déjà vécu de grandes vagues épidémiques et en ont tiré les leçons, les pays d'Asie du Sud-Est, starisés comme jamais, Corée du Sud, Singapour, Taïwan, forts de leurs expériences du SRAS et du MERS coronavirus, et capables de dégainer masques, tests et stratégies de traçage. Et puis l'autre catégorie, ces régions du globe qui n'ont jamais vécu pareille épidémie, du moins au XXIe siècle, l'Europe et l'Amérique. Deux continents frappés donc plus fort par un virus, mettant à nu les forces et les faiblesses des États. Aux États-Unis de Trump, mise à nu d'un système sanitaire profondément inégalitaire et d'un leader qui a nié la gravité du mal avant de jouer trop tard les Superman. En Italie, mise à nu d'une démographie et d'un système de soins vieillissant comme celui de l'Espagne. En France, mise à nu d'une désindustrialisation dans des domaines clés comme la biologie et le matériel médical et d'une bureaucratie jacobine rendant la gestion notamment de nos hôpitaux rigide et technocratique. En Allemagne, à l'inverse, mise en valeur d'un pays souple et rapide à la détente grâce au fédéralisme solide avec ses nombreux lits en réanimation et ses tests précoces qui sont à mettre au crédit d'un réseau industriel puissant, celui des grands laboratoires de biologie. Bref, le Covid-19, un test de puissance et d'impuissance pour les États et ceux qui les dirigent, confronté à la pression populaire de l'ère des réseaux sociaux sur le thème « Ne nous montrez pas trop que vous ne savez pas », soignez-nous, ne nous laissez pas mourir, à une époque où nous ne supportons plus l'idée de notre finitude, prenez-nous en charge et redoutez que ne reviennent nos colères confinées. Manière, le virus comme test de l'impuissance et de la puissance des politiques, on a beaucoup commenté la nouvelle humilité d'Emmanuel Macron lundi dernier à la télévision. Est-ce qu'elle était aussi un aveu d'impuissance, cette humilité ?
Le cas d'Emmanuel Macron est un peu particulier parce qu'il porte l'humilité en bandoulière sur un mode qui est un peu paradoxal, je trouve. Il ne manifeste pas, me semble-t-il, une humilité particulière, ni en général, ni pendant cette crise en particulier, je pense à son interview au Financial Times, où au contraire, il était très conceptuel et il a beau exorciser tout ça en appelant en permanence à l'humilité, je pense qu'il a au contraire beaucoup de prétentions, ce serait beaucoup dire, mais une sorte d'orgueil intellectuel qui contredit pratiquement ses propos à chaque instant. Moi, ce qui me frappe tout de même dans cette question du pouvoir du politique, et j'aimerais commencer par là, c'est que quand on y pense bien, ce qu'on est en train de vivre, c'est la conséquence du pouvoir du politique. C'est-à-dire que le confinement et l'arrêt complet de l'économie, c'est une décision du politique. Rien ne nous y obligeait. On n'est pas dans un phénomène exogène. C'est ce qui rend d'ailleurs la dimension économique de cette crise totalement inédite. Jamais on n'a appuyé sur le bouton off, pour parler de manière un peu triviale comme on le fait aujourd'hui. Donc le pouvoir politique, la puissance du politique a été le fait inaugural, enfin comment dire, la dimension inaugurale de cette crise. C'est parce qu'on a décidé de tout arrêter que tout est à l'arrêt. Alors pardonnez-moi, comme démonstration de la puissance du politique, on fait difficilement mieux. Alors ensuite, là où le politique peut sembler impuissant, c'est sur le diagnostic et sur le remède à apporter au mal. Mais enfin, là, on peut lui en vouloir parce qu'on attend tout du politique dans certains pays comme la France, où évidemment la collectivité continue à penser que le roi a guéri les écrouelles, mais je ne suis pas, moi, choqué que face à un phénomène inédit, d'une complexité scientifique tout à fait considérable, il y ait un peu de flottement, des incertitudes, voire des contradictions. Comment peut-on imaginer que face à quelque chose d'absolument neuf et de potentiellement dévastateur, le politique ait immédiatement, partout, dans toutes les circonstances, la bonne réponse immédiatement ? Moi, je ne suis pas choqué que la réponse ne soit pas celle-ci. En revanche, ce qui me choque, c'est quand on fait semblant de tout savoir. Là, c'est ennuyeux, et on revient à un certain nombre d'exemples que vous avez illustrés dans votre introduction, Émilie. Un certain nombre de leaders du monde occidental qui ont voulu montrer qu'ils savaient, qui ont voulu faire croire qu'ils pouvaient, et qui, évidemment, ex post, sont un peu ridicules. Enfin, comme ça concerne principalement Donald Trump, qui, comme on sait, n'a vraiment pas peur du ridicule, c'est sans grande importance. Si on revient au sujet fondamental, moi je pense que le politique finira par manifester qu'il trouve des solutions, mais il est assez normal, pour résumer ce que je disais, qu'il ne les trouve pas immédiatement partout.
Avec beaucoup d'interrogations encore, Gérard Courtois, la réouverture des écoles, comment, quand, la distribution des masques, la gestion des tests, le retour au travail. On sait que les ministres ont peu de temps, hein, ils ont jusqu'à la fin du mois pour élaborer leur feuille de route. C'est à ce moment-là que la stratégie globale de déconfinement sera communiquée. Il y a des inconnus gigantesques dans leurs équations. Ça veut dire que gouverner par les temps qui courent, c'est plus que jamais prendre des risques. Ça relève presque du pari hasardeux.
Bah, gouverner, c'est, on le sait, hein, c'est choisir, c'est arbitrer, c'est trancher. Donc c'est prendre des risques. Et c'est vrai en temps ordinaire, et c'est encore plus vrai face à cette crise vertigineuse. Lundi dernier, dans son discours, Emmanuel Macron, il en a pris trois, me semble-t-il, de risques, qui correspondent à trois temporalités différentes. Pour ce qui est d'hier, c'est-à-dire du démarrage de la crise et de sa gestion par le gouvernement, le procès est déjà engagé contre l'action de l'exécutif. On connaît les griefs, hein, ou les accusations, impréparation, déni et même mensonge, dénoncent tous les docteurs Yaka Faucon qu'évoquait à l'instant Philippe Manière. Là où le risque est pris par Macron, c'est que contrairement à la règle habituelle des politiques, qui est de ne jamais reconnaître une erreur, il a admis des ratés, des défaillances, des retards, des insuffisances. Dont acte, il sera bien temps, plus tard, à la fin de cette crise, d'en tirer toutes les conséquences. Mais en même temps, si je puis dire, le président a souligné aussi, et à mon avis à juste titre, l'extrême réactivité de l'État, du gouvernement, sur le terrain économique et social. Qu'il s'agisse de la prise en charge du chômage technique, qu'il s'agisse des mesures d'urgence prises en faveur des PME, tout cela a été mis en œuvre en 15 jours et tout cela fonctionne, de fait. Pour un État dont, par exemple, Mme Le Pen dit qu'il est au bord de l'effondrement, la performance mérite d'être saluée et je pense que les oppositions se grandiraient à le reconnaître. Le deuxième risque, c'est pour aujourd'hui, vous l'avez dit, Émilie, l'échéance a été fixée, le déconfinement progressif à partir du 11 mai. Voilà, c'est sa responsabilité, il l'a prise. Et que n'aurait-on dit s'il ne l'avait pas fait ? Alors maintenant, le risque, il est considérable. Les inconnus sont immenses, les difficultés également. Tout cela va être affaire de préparation, de mobilisation, de méthode et d'exécution. Bon, le président sait qu'il sera jugé sur pièce dans moins d'un mois ou dans un mois, et il est clair que le défi est considérable. Et le troisième risque, il est pour demain. Devant un tel ébranlement, Emmanuel Macron et tout le monde a tendance à penser que plus rien ne sera jamais comme avant, qu'il faut refonder, repenser un certain nombre de politiques et de philosophies. Chacun a noté sa formule, hein, sachant nous réinventer, moi le premier. Et c'est là que le risque est réel, c'est d'avoir beaucoup de mal à convaincre de sa capacité à se réinventer. Non seulement parce que la France, depuis des années, est en proie à une défiance profonde à l'égard des gouvernants et à des tentations éruptives ou à des colères permanentes. Mais aussi parce que cette crise percute de plein fouet quelques-uns des fondamentaux du macronisme. Alors, on va pas tous les énumérer, mais l'arrogance du savoir qui doit faire place à l'humilité, je reconnais avec Philippe Manière qu'elle est très relative, mais l'humilité du non-savoir. Les premiers de cordée qui sont éclipsés par les premiers de corvée, les soignants, les caissières, les transporteurs, etc. La promesse de l'émancipation individuelle qui était au cœur de la campagne de Macron en 2017, qui doit céder la place à la promesse d'une protection collective. Tout ça percute fondamentalement un certain nombre de ressorts du macronisme depuis 3 ans. Emmanuel Macron a donc pris ses risques. Pour lui, comme pour le pays, me semble-t-il, c'est la seule façon de sortir par le haut de cette crise, mais c'est aussi une formidable occasion de repenser l'avenir.
Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui une défiance française spécifique hein, dans la relation du peuple à ceux qui le gouvernent. Sylvie Kaufmann, hein, on le sait, les sondages sont mauvais pour l'exécutif. Les services de renseignement ces derniers jours alertaient sur des mouvements radicaux qui appelleraient déjà à des actions au moment du déconfinement, type gilet jaune. Est-ce que ces colères confinées sont spécifiquement françaises ?
Oui, on voit qu'il y a vraiment une spécificité française dans cette défiance. Par exemple, le Centre de recherche de Sciences Po, le CEVIPOF, qui étudie chaque mois avec son baromètre la confiance politique et dont nous publions dans Le Monde les conclusions pour le mois d'avril ce week-end. Cette étude montre que derrière une mobilisation massive des Français sur le confinement, les fractures subsistent et cette défiance reste beaucoup plus haute que, par exemple, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ça, c'est vraiment frappant. Il y a deux choses qui sont très frappantes. C'est donc, d'une part, cette spécificité française de la défiance. Le 39% seulement des Français ont confiance dans leur gouvernement actuellement, alors que en Allemagne, on est à 60% et au Royaume-Uni à 64%, alors que ce sont deux pays qui ont quand même traversé aussi des très grosses turbulences politiques dans la période pré-coronavirus. Mais donc on a cette défiance française vis-à-vis du gouvernement et en revanche un très très haut niveau de confiance dans les médecins. Pas dans la science, mais dans les médecins. Il y a une autre étude intéressante qui a été réalisée il y a 2 ans par le Gallup pour le Wellcome Trust et qui vient d'être rendue publique et qui montre que les Français, c'est une autre spécificité française, les Français se méfient de la science, ce sont par exemple les plus sceptiques sur les vaccins en Europe, mais ils ont tout à fait confiance dans leurs médecins. Donc ça, tout ça brouille terriblement en fait le message politique sur la santé publique. Et c'est ce qu'on voit émerger aussi dans cette crise, c'est la puissance de la parole des médecins. On voit tous se succéder à longueur de journée, de soirée, à la radio, à la télévision, d'éminents médecins, des professeurs, des chefs de service, qui sont souvent en contradiction les uns avec les autres, qui sont souvent en contradiction aussi avec la parole publique sur les messages à transmettre, sur les consignes sur la santé publique et de lutte contre l'épidémie. Et donc tout ça, il y a cette ambivalence française qui aboutit à un brouillage du message de santé publique. Voilà, alors on le voit bien par exemple dans la polémique sur le professeur Raoult, à Marseille, sur la chloroquine, sur les masques. Alors les masques, c'est un problème universel, et même dans les pays qui ont réussi leur stratégie de lutte beaucoup mieux contre ou beaucoup plus vite que nous contre la pandémie, on voit qu'il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement en masques. Mais on voit bien qu'en France, cette défiance se retrouve à tous les niveaux, et donc, enfin, de manière assez générale dans l'opinion publique. Et du coup, ça rend, en effet, comme vous le dites, l'opération de déconfinement très, très délicate politiquement à gérer pour le gouvernement.
Merci Sylvie Kaufmann. Alors, en effet, société française des colères et de la défiance versus cette société allemande de la confiance, Thomas Gomard. Pourquoi est-ce que la situation politique, sanitaire, sociale allemande est tellement différente entre le pays d'Emmanuel Macron et celui d'Angela Merkel? C'est vrai que toute la semaine, tous les journaux ont consacré des articles à cette réussite allemande face à la pandémie.
D'abord, je pense qu'il faut commencer par rappeler que les deux pays ont les dépenses de santé les plus élevées au sein de l'Union européenne. Pour mémoire, la France consacre plus de 11% de son PIB à sa dépense de santé. Et donc, il y a effectivement ensuite la question de l'efficacité de cette dépense qui est posée par la comparaison entre la France et l'Allemagne. Alors, pour y répondre, je pense qu'on est au cœur des différences de culture politique et administrative, et je dirais même de culture stratégique, en fait. On a une culture stratégique allemande qui est beaucoup plus basée sur ce qu'on appelle la sécurité humaine, alors que notre culture stratégique est beaucoup plus basée sur des éléments durs. Je rappelle que le chef de l'État est chef des armées, et qu'il est rentré dans la crise en se déclarant en guerre, alors même qu'il n'y avait pas d'intentionnalité ou de dialectique des volontés, et que le président allemand, Steinmeier, a expliqué que c'était tout sauf une guerre, mais un test pour l'humanité. Quant à la chancelière Merkel, scientifique de formation, elle a indiqué que c'était une crise qui était ouverte au sens où il y avait beaucoup de choses à découvrir. Donc l'approche intellectuelle est déjà très différente et s'explique, à mon sens, par ces différences fondamentales de culture politique et administrative. Alors, ça pose en fait ensuite, à mon sens, la question de comment la France et l'Allemagne vont agir de concert ou au contraire de manière divergente pendant cette crise. Moi, je pense pas du tout qu'il faille encore penser en termes de l'après-crise. Je pense qu'on est quelque chose dans un continuum appelé à perdurer, mais que ce continuum va très certainement entraîner une divergence plus grande du franco-allemand, paradoxalement, et qu'un des risques, c'est que nous sortions, que nous allions de plus en plus avant dans ce continuum, avec, pour faire très simple, une France qui, au fond, se rapprocherait des critères de la manière de voir de l'Europe du Sud, et au fond, une cassure, à mon sens, de plus en plus profonde entre Europe du Nord et Europe du Sud. C'est malheureusement ce qui, à mon avis, est d'ores et déjà visible en comparant la situation entre la France et l'Allemagne. Dernier point, les deux pays ne sont pas rentrés avec le même dispositif dans la crise. Quand on rentre dans une crise avec 100% de niveau d'endettement par rapport au PIB, et 60% dans le cas de la France, pardon, et à peu près 60% dans le cas de l'Allemagne, évidemment, on ne dispose pas des mêmes moyens pour faire face à la crise proprement dite.
Peut-être encore un dernier mot, Gérard Courtois, avec vous sur la situation française. Angela Merkel, dont nous parlions à l'instant, enregistre de nouveau des records de popularité après des années au pouvoir, tandis qu'en France, on en est déjà à se dire qu'il va falloir un changement de gouvernement pour mener la nouvelle politique de dépenses publiques face à la récession. Qu'est-ce que vous pensez de ces rumeurs, alors soit d'un gouvernement d'union nationale avec le retour d'un Manuel Valls, du NKM, d'un Michel Barnier, ou alors l'hypothèse d'un Bruno Le Maire à Matignon? Qu'est-ce que ça dit de la France, cette nécessité de remanier les gouvernements dès lors que surgit quelque chose de nouveau dans le paysage?
Vous connaissez la règle dans ce genre de circonstances. Ceux qui savent ne disent rien et ceux qui parlent ne savent rien. Et on y est. Les spéculations actuelles sont pour l'instant des plans sur la comète. On évoque un gouvernement d'union nationale. Bon, très bien, ça s'est produit 3 fois en un siècle. Et à chaque fois, il a fallu 3 choses. Il a fallu une crise exceptionnelle, guerre de 14, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et guerre d'Algérie menaçant de dégénérer en guerre civile en 58. Aujourd'hui, Thomas Gomard vient de le rappeler, même si Emmanuel Macron a utilisé le terme au mois de mars, mais ne l'a plus retenu lundi dernier, le terme de guerre ou la notion de guerre n'est pas pertinente, même si la crise est gravissime. La deuxième condition d'un gouvernement national, ça serait une personnalité exceptionnelle capable de, je sais pas comment dire les choses, de se hisser à la hauteur de l'histoire. Clémenceau en 17-18, on a eu De Gaulle en 44 et De Gaulle à nouveau en 58. Je ne suis pas sûr que depuis 3 ans, Emmanuel Macron ait fait la démonstration de sa capacité à rassembler très largement, à ressouder le pays. Il a plutôt fait l'inverse, élargit la fracture entre les gouvernants et les gouvernés, entre les élites et le peuple. Et enfin, la troisième condition pour un gouvernement d'union nationale, ce serait un programme, si je puis dire, un programme commun national, un accord sur l'essentiel. Et on en est très loin, non seulement à 2 ans d'une présidentielle, mais avec 2 composantes importantes du paysage politique, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, qui sont décidées à poursuivre une opposition radicale. Alors, ça n'enlève pas à mon sens, l'évidence que, probablement d'ici l'été, s'il veut véritablement repenser les choses, se réinventer ou réinventer sa politique, il faudra bien qu'Emmanuel Macron mobilise de nouvelles énergies, de nouvelles personnalités et élargisse son assise. Jusqu'où et avec qui, on le saura à l'été, probablement.
Philippe Manière, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce climat politique français ?
Oui, peut-être sur le climat politique et au-delà sur le climat intellectuel français. Moi, je suis frappé de voir qu'apparaît à la faveur de cette crise quand même quelque chose qui est, qu'on voyait monter, mais qui, me semble-t-il, est une forme de rupture de la France avec sa propre tradition. On voit se manifester une forme de défiance vis-à-vis de la science, une forme de vision un peu magique du monde. Et je pense que c'est une grande différence avec l'Allemagne. L'Allemagne et la France sont deux pays qui ont une tradition scientifique, qui ont une tradition technique, l'une et l'autre très solide, on l'a oublié, mais c'était les deux grands pays techniques et scientifiques il y a 50 ou 70 ans. Et l'Allemagne est très largement restée sur cette lancée, dans cette tradition. On a vu la seule intervention de la chancelière un peu longue, c'est une intervention où elle vulgarise, elle fait une vulgarisation très accessible, mais fondée sur des chiffres et pas du tout prétentieuse, qui n'a rien de conceptuel de la manière dont se transmet le virus et de la manière dont on peut enrayer cette transmission par les mesures barrières. C'est très clair, ça n'a aucune prétention intellectuelle, encore une fois, mais c'est fondé sur une appréhension scientifique, méthodologique de la question. Et nous, on a à la fois des envolées lyriques bouleversantes sur le thème « plus rien ne sera comme avant, je vais moi-même changer », à mon avis complètement hors sujet, et en même temps dans la population, une sorte d'arrachement à la tradition scientifique classique française qui était quand même très fortement diffusée, n'oublions pas, le 19e, le 20e siècle, ce sont des siècles où la tradition, la culture scientifique se diffuse très largement dans la population française, et bien ça, on a l'impression qu'on en est un peu parti, à notre insu, contre nous-mêmes, et c'est à mon avis une des raisons du malheur français, de la schizophrénie française. On est à la fois le pays de Pasteur, de Pierre et Marie Curie et de Descartes, et puis on est le pays du triomphe des antivax, de l'enthousiasme des bobos pour le trio bio, vélo, et eau pour éolienne, etc. Je me moque gentiment, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ressorti à une rupture de la France avec sa propre tradition, ce qui, à mon avis, ne nous met pas en situation de bien traiter le sujet, puisque ce sujet a une dimension scientifique, alors que l'Allemagne, pour revenir sur la comparaison qu'on était en train d'explorer, elle est très fidèle à sa tradition de ce point de vue-là.
Sylvie Kaufmann, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette comparaison entre la France et l'Allemagne ?
Oui, nous sommes deux pays différents, c'est une évidence. Et là, on les voit de manière criante, de la même manière que Angela Merkel et Emmanuel Macron sont deux animaux politiques totalement différents. Elle, c'est une scientifique, comme vient de le souligner Philippe et Thomas également. Voilà, c'est évident que ni Steinmeier ni Angela Merkel ne va se comporter en chef de guerre. D'abord, le mot « guerre » est quasiment banni du vocabulaire politique allemand. En France, on a une tout à fait autre culture. Je ne dis pas que c'était une très bonne idée d'avoir recours à la rhétorique guerrière dans un premier temps, mais ce sont vraiment deux cultures, deux histoires et deux processus politiques différents. Il y a une autre chose dans ce qu'a dit Thomas sur l'Allemagne qui est tout à fait vrai, mais il y a un autre facteur dont a bénéficié l'Allemagne, à part son évidente agilité et compétence sur la gestion de cette crise, c'est qu'elle était très en arrière de la vague de la pandémie. Et donc, on a bien vu que dans la manière dont l'offensive a été menée par le virus en Europe, les pays qui étaient en arrière ont bénéficié de l'expérience des premiers, c'est-à-dire que la Lombardie a été frappée de plein fouet, la première, et pendant ce temps, la France, qui était 15 jours derrière, a pu regarder ce qui s'était passé, et l'Allemagne, qui était encore derrière, a pu aussi en bénéficier. Donc tout ça, il y a toute une combinaison de facteurs, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que la divergence va se creuser et qu'au niveau européen, nous sommes en face d'un problème très très profond.
Pour terminer sur ce comparatif, Gérard Courtois, cette différence, elle renvoie à la compétence ou à la puissance des gouvernants ou à la structure fondamentale des États ?
Moi, je ne suis pas absolument certain que la structure des États joue un rôle déterminant. On a beaucoup souligné, par exemple, le fait que la structure fédérale de l'Allemagne aurait permis une réaction plus proche du terrain, plus rapide et plus efficace. Bon, d'autres États fédéraux ont fait la démonstration du contraire, à commencer par les États-Unis, ou dans un genre différent, la Belgique, qui est maintenant au cœur de l'épidémie. Donc, que l'État français soit lourd, si je puis dire, manque de réactivité. Mais je soulignais quand même, et je rappelle l'inverse pour ce qui est des mesures économiques qui ont été prises très rapidement avec beaucoup d'efficacité. Donc, alors, la question renvoie, mais on y reviendra sûrement, à une autre déficience de l'État, qui était sa négligence, que je pourrais qualifier de coupable, et qui sera sûrement qualifiée de coupable, par rapport aux mesures de précaution qui avaient été, sur le plan sanitaire, engagées à partir de 2007-2008, après l'épisode de la grippe aviaire de 2006, et qui ont été, donc des stocks de masques, tout un dispositif avait été conçu, avait été mis en œuvre, avait été mis en place, et il a été ensuite, pour des raisons évidentes, budgétaires, les stocks ça coûte cher à entretenir, qui a été négligé et pour grande partie abandonné. D'où la pénurie actuelle. Donc là il y a effectivement des choix politiques, des négligences politiques qui sont évidentes. Est-ce que c'est lié à la structure de l'État ? Personnellement, je n'y crois pas trop.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Alors, vous parliez justement du fédéralisme américain. Partons maintenant outre-Atlantique. Donald Trump face au virus. On l'a lu beaucoup ces derniers jours. La puissante économie américaine à terre. Les 22 millions d'emplois créés depuis 2009 qui ont disparu en à peine un mois. Le risque d'une crise des subprimes à grande échelle. Et l'économiste, Joseph Stiglitz, qui disait cette semaine dans le Figaro que l'administration Trump, je le cite, est un désastre. Rappelant que Trump a démantelé le bureau des épidémies de la Maison-Blanche, qu'il a réduit les crédits de la recherche médicale. Que fait ce Covid-19 à la puissance ou l'impuissance de Donald Trump, Thomas Gomard ?
Pour répondre à cette question, je ferai le lien avec l'Allemagne précisément, parce que je pense que dans la divergence qu'on a déjà pointée dans le cadre européen, la question du positionnement de l'Allemagne par rapport aux États-Unis d'une part et par rapport à la Chine d'autre part risque d'être différente de celle du positionnement français. Ça me conduit ensuite à répondre directement à votre question en soulignant deux aspects. Le premier, c'est évidemment ce traitement tout à fait prévisible, au fond, de la part de Donald Trump, est très conforme à ce que l'on sait du personnage, c'est-à-dire au départ déni complet, ensuite explication disant que le pic était passé, enfin toutes les facéties habituelles du personnage qui malheureusement sont assez tragiques dans les circonstances actuelles, mais qui ont pour effet de suspendre la campagne électorale. Et ça, c'est très frappant parce que ça laisse Biden complètement inaudible, avec une focalisation très forte sur la personnalité de Trump et sur la gestion par la Maison-Blanche ou son absence de gestion, puisqu'on le voit effectivement, les choses se règlent plutôt au niveau des États. La deuxième observation, c'est que pour moi, c'est la décision prise par Donald Trump vis-à-vis de l'Organisation mondiale de la santé, et là aussi très conforme à ce qu'il fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche, c'est-à-dire que c'est la continuation de la destruction méthodique du multilatéralisme créé par les États-Unis après 1945, dont ils étaient les garants ultimes. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où, à la prudence ou à la critique des années Obama vis-à-vis du système multilatéral, on est entré dans cette phase de déconstruction du système multilatéral par leur principal organisateur. Et ça a comme conséquence de voir apparaître au grand jour des choses déjà identifiées précédemment, qui est la prise en main très graduelle, très méthodique, de l'appareil onusien par la Chine. Et on en voit d'ailleurs les conséquences sur les positions initiales prises par l'OMS. Et justifiée aujourd'hui par Trump comme « je ne veux plus soutenir l'OMS » dans la mesure où, au fond, elle est passée pour simplifier très rapidement le raisonnement, mais dans la main chinoise. Et là, je pense qu'il y a effectivement des évolutions tout à fait profondes, parce que si on poursuit cette image du continuum, ce continuum va aussi se traduire par un système onusien sur lequel les États-Unis, les Européens vont avoir de moins en moins de prise et sur lequel les Chinois, d'autres pays aussi, vont avoir de plus en plus de prises.
Oui, l'érosion, dites-vous, Thomas Gomard, continue du multilatéralisme. La fin du leadership américain qui s'est avérée évidente dans cette affaire, Sylvie Kaufmann, et cette guerre des nerfs qui continue entre la Chine et les États-Unis. Vous pensez-vous aussi que dans cette bataille des récits, c'est la Chine qui l'emportera avec son efficacité, son offensive diplomatique qui vante l'efficacité du modèle chinois face au virus, qui souligne sans cesse les déboires de l'Occident? Ce sera payant à la fin de l'histoire, cette stratégie?
Alors, on est en plein dans la bataille, hein. On est vraiment au milieu, et donc je crois qu'il est impossible de dire à l'heure actuelle qui seront les gagnants et qui seront les perdants. Ce qu'on voit, je crois, en ce moment sur la scène internationale, c'est on ne peut pas dire qu'une révolution est en cours. On ne sait pas si ça va aboutir à une révolution. Ce qu'on voit, c'est surtout une accélération très brutale de tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise, mais qui d'un coup sont exacerbées. Et si vous voulez, on est en plein maelstrom, en pleine cuisson dans le chaudron, si je puis dire. Mais c'est très difficile de prédire quel sera le temps de cuisson. Qu'est-ce qui sortira du chaudron à la fin? Je crois que en ce moment, à l'heure H, c'est très difficile de le dire. Ce qu'on voit, c'est que la Chine, on assiste à une offensive de propagande et d'activisme sur la scène internationale de la Chine, qui est, je crois, pris de court la plupart des pays occidentaux, parce que la Chine mène cette offensive avec à la fois les outils des Américains et les outils des Soviétiques, je dirais. On a à la fois cette espèce de know-how de la propagande soviétique qu'on voit à l'œuvre tout d'un coup, y compris la désinformation, etc. Et puis, une sorte de velléité de la Chine de prendre ce qui était auparavant la place des États-Unis. Par exemple, quand on voit ces cargaisons d'aide humanitaire livrées par la Chine en Afrique avec écrit dessus des gros panneaux « China Aid », on voyait avant « US Aid ». Donc, tout ça est très très pas surprenant, parce que l'ascension de la Chine était évidemment à l'œuvre depuis longtemps, et y compris avec beaucoup moins de discrétion par le président Xi ces dernières années. Mais là, il y a vraiment une offensive très brutale. Alors, est-ce que ça peut marcher? On voit qu'en ce moment, il y a une contre-offensive de plusieurs pays occidentaux, des États-Unis, bien entendu, comme l'a dit Thomas. Mais aussi, on a vu, par exemple, dans l'interview d'Emmanuel Macron au Financial Times, il a fait cette insinuation sur la Chine en disant « nous ne savons pas tout », en se gardant bien d'entrer dans les détails, mais on voit bien que personne ne sait vraiment si les chiffres qu'a donné la Chine sur la pandémie sont exacts ou pas. Enfin, on voit qu'il y a plein de cette histoire du laboratoire de Wuhan, qui a été créé avec l'aide des Français au départ, dans les années 2000. Et puis, c'était conçu comme un projet de coopération scientifique franco-chinoise. Et en fait, il est apparu au cours des années qu'en réalité, les Chinois étaient intéressés à avoir accès à la technologie, à ce que les Français les aident à bâtir ce laboratoire, qui est un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses, mais n'avait aucune envie d'avoir un droit de regard des Français, en gros. Donc là, a posteriori, on voit un peu quel était le dessein de la Chine dans cette coopération. Et alors, le département d'État américain, enfin, des diplomates américains sont allés visiter ce laboratoire en 2018, et d'après le Washington Post, on fait un rapport à Washington en disant que les conditions d'hygiène et les conditions de rigueur scientifique n'étaient pas observées dans ce laboratoire. Voilà. Alors après, là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que personne n'en sait rien, mais il y a énormément de spéculations sur est-ce que le Covid-19 était étudié dans ce laboratoire et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, mais voilà, il y a toute une série de polémiques comme ça sur les chiffres, sur ce laboratoire, sur la manière dont la Chine, bien entendu, a manipulé la direction de l'OMS, cet entrisme chinois dans les organisations internationales qui font qu'il y a une sorte de retour de bâton, je crois, maintenant, à cette offensive chinoise, y compris en Afrique d'ailleurs, y compris en Afrique, qui fait qu'on ne peut absolument pas dire qui gagnera au bout du compte.
J'aimerais bien vous faire réagir, Thomas Gomard, en effet, à ce qu'on peut lire depuis quelques heures après cette révélation du Washington Post. Si ce Covid-19, c'est l'erreur d'un laboratoire chinois, ça change évidemment tout à cette bataille des récits entre l'Asie et les États-Unis dont nous parlions à l'instant.
Oui, alors il faut évidemment rester très prudent parce que la guerre de l'information, elle fonctionne dans tous les sens. Donc moi sur ces aspects-là, je resterai prudent. En revanche, en tendance et pour aller dans le prolongement de ce que vient d'exprimer Sylvie, qui me frappe, c'est effectivement la trumpisation ou la poutinisation de la diplomatie chinoise, dont on a eu un exemple cette semaine avec le communiqué publié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'encontre des propos tenus par l'ambassade de Chine. Pour comprendre la mesure de cette propagande caricaturale de la Chine, il suffisait de lire le fil Twitter de l'ambassade. Le deuxième élément, c'est que, à mon sens, la difficulté principale de cette offensive et de cette guerre des récits, c'est que ce qui s'annonce, c'est le fait que l'Europe va être le terrain de jeu de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et que le risque pour les Européens, c'est de sortir appauvris, désunis et hébétés, alors qu'il n'y a pas ce sentiment d'être hébété en Chine. La Chine ne s'est pas confinée dans sa totalité. Elle a confiné une partie quand nous sommes complètement confinés. Elle continue à produire. Et donc la question que ça pose, ça va être la capacité des Européens en sortie ou dans le prolongement de ce continuum à résister à des offres technologiques qui seront indispensables à la relance, à la reprise, notamment pour tout ce qui a trait à la gestion des données. Je pense évidemment à la 5G. À mon avis, c'est ça qui se joue en arrière-plan, en fait. Et qui va l'emporter sur la prochaine génération technologique, qui va avoir la suprématie technologique à la faveur de cette crise sanitaire. C'est comme ça que je poserai le problème. Et c'est un problème particulièrement aigu pour les Européens qui risquent de se retrouver très désarmés avec un lien transatlantique pas rompu, mais très altéré, et un lien avec la Chine qui sera très différemment compris pour revenir au début de la conversation, à Paris et à Berlin.
Philippe Manière, sur cette bataille des récits entre les États-Unis et la Chine qui s'est engagée.
Non, mais on voit bien que la Chine se dévoile complètement depuis quelques mois. C'est même d'ailleurs peu compréhensible, à mon avis, d'un point de vue tactique. C'est-à-dire qu'on avait affaire à un pays qui était manifestement plus impérialiste que ce que nous portait à croire notre irénisme. Vous savez, on a longtemps communié dans l'idée que la Chine était un grand pays qui avait longtemps été en sommeil, qui se réveillait, mais qui n'avait jamais été impérialiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a un vrai soupçon fondé sur des faits qu'ils sont bien plus impérialistes que ce qu'on pouvait espérer, mais du moins faisait-il semblant d'être une grande puissance un peu bienveillante. Là, c'est à peine s'il continue à faire cet effort. Je trouve qu'on voit une Chine qui se dévoile. Alors effectivement, il y a eu des excès qui sans doute n'étaient pas dirigés par le pouvoir central, mais on l'a vu dans le fil Twitter de l'ambassade, par exemple, comme le signalait Thomas à l'instant. Mais au-delà, on a quelque chose qui est ressorti à la sortie d'une Chine d'une forme de déguisement. La Chine, on tombe les masques un peu dans cette affaire, d'une manière que je trouve d'ailleurs peu compréhensible d'un point de vue tactique. Alors, oui, moi je suis sensible à ce que disait Thomas, c'est-à-dire que s'il n'y a plus le lien transatlantique et on voit qu'il est très abîmé, il peut se rétablir, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Trump durera peut-être encore 4 ans et demi, mais ça n'est pas sûr. Et 8 ans, si toutefois il fait deux mandats, ça n'est que 8 ans par rapport à une très longue relation transatlantique. Donc on peut imaginer que ça se rétablisse. Mais dans l'état actuel des choses, le lien transatlantique est fortement rompu. Et oui, Thomas a raison, ce qu'on voit, c'est que l'Europe est devenue un peu le champ de bataille de cette nouvelle bipolarité, de cette nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Du temps de la guerre froide précédente, vous vous souvenez, ça se passait dans ce qu'on appelait les proxys en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Afrique, etc. On a un peu l'impression que là, ça risque de se passer chez nous. Les deux grandes puissances peuvent avoir un intérêt, non pas à nous faire faire la guerre entre nous, c'est absurde, mais à nous monter un peu les uns contre les autres, à faire valoir plutôt d'ailleurs sur le terrain commercial que sur le terrain stratégique ou militaire, des arguments vis-à-vis des uns auxquels ils sont sensibles, que les autres pourraient désapprouver, etc. Donc on a ce risque-là. Moi, je voudrais revenir un instant, Émilie, aussi sur ce qu'on disait sur est-ce que c'est le triomphe de la Chine et des pouvoirs totalitaires comme étant des pays qui manifestent leur réussite, ou de l'Asie en tout cas. Je crois qu'on ne peut pas du tout généraliser dans cette matière. Vous voyez, par exemple, la Corée et Taïwan ont magnifiquement réussi à enrayer la pandémie, pour le moment en tout cas. Or, ce sont évidemment des pays asiatiques, mais ce sont des démocraties. La Corée vient d'avoir des élections parfaitement libres, parfaitement réussies malgré la pandémie. C'est une grande démocratie. La Corée du Sud, Taïwan est aussi une vraie démocratie. Singapour, c'est peut-être un peu plus contestable, mais enfin, c'est tout de même, à Singapour, on trouve l'essentiel des ingrédients de la démocratie, malgré évidemment un certain nombre de problèmes qu'on connaît. Et donc, on ne peut pas dire que les pays totalitaires ont réussi mieux que les autres. On ne peut pas dire non plus que l'Asie réussit uniment bien, parce qu'on a vu que la Chine avait aussi ses ratés. Si toutefois la pandémie revient, ce sera un peu spectaculaire. Et en Europe, c'est pareil. Vous avez des pays où on voit que la lutte contre la pandémie a mieux marché qu'ailleurs, mais on ne peut pas en tirer de conséquences sur les régimes politiques. Je crois que dans cette affaire, il faut revenir à un tout petit peu d'humilité, là encore, pardon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur la manière dont cette épidémie se transmet. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ressortissent à la chance, beaucoup d'éléments qui ressortissent à des facteurs qu'on ne maîtrise pas, conditions de température et de pression, j'allais dire, au propre et au figuré. Et puis, quand je parle de chance, vous voyez, il y a la guémuclicade. Qu'est-ce qui fait que dans l'Europe du Nord, il y a moins d'épidémie, un certain nombre de spécialistes vous disent que c'est parce que dans l'Europe du Nord, on se touche plutôt moins qu'en Europe du Sud. Ce sont des questions d'habitude. Et donc, en tirer des conclusions générales sur l'efficacité des systèmes me semble un petit peu solliciter le sujet. Et encore une fois, attendons de savoir comment tout ça tourne. C'est difficile de dire tel pays a réussi pour telle raison. Oui, il est certain que certains pays, comme l'Allemagne, s'étaient organisés en ayant pris à l'avance les précautions qu'il faut prendre quand on sait qu'une telle épidémie peut survenir. Et c'est ce que la France avait fait et c'est ce à quoi la France a renoncé. Mais vous voyez bien que la France n'a pas changé de localisation géographique entre l'avant et l'après, et qu'elle n'a pas non plus changé de régime politique. Donc ce sont vraiment des décisions politiques d'allocation de ressources, d'organisation du système sanitaire qui n'ont rien à voir, encore une fois, ni avec le fait qu'on se trouve ici ou là, ni avec le fait qu'on soit une démocratie ou non. Tous les pays peuvent s'organiser pour faire face plus ou moins bien. Et puis après, vous avez encore une fois des raisons exogènes et j'allais dire la chance. S'il n'y avait pas eu en Corée d'ailleurs, comme en Allemagne, comme en Italie, des rassemblements religieux, il y aurait eu une épidémie qui aurait beaucoup moins rapidement décollé. On a repéré, quand je dis l'Allemagne, pardon, je fais allusion à cette zone qui a autour de Mulhouse, donc c'est tout la France du Sud et puis la Suisse, vous avez toute une contagion qui a eu lieu et aussi vers l'Italie par cette réunion religieuse où il y avait beaucoup justement d'une dimension tactile très prononcée. Il y a eu la même chose en Corée, une grande partie de l'épidémie coréenne vient d'une réunion religieuse. Donc vous voyez, il me semble que tirer des conclusions générales de principe de ces différences ici ou là est assez dangereux parce qu'on peut passer complètement à côté de ce qui est la véritable raison et qui est généralement très trivial.
Alors, on va pas essayer en effet de tirer des enseignements généraux, mais quand même un mot avec vous, Gérard Courtois, sur les hommes forts en général dans ce contexte du Covid-19. Xi Jinping, on en a parlé, mais aussi Vladimir Poutine en Russie ou Erdogan en Turquie ou encore Viktor Orban en Hongrie. Est-ce que vous avez le sentiment que le Covid-19, c'est davantage un test de puissance pour les autocrates que pour les démocrates?
Bah, écoutez, on ne vit pas en autocratie et heureusement, hein. On vit dans des démocraties où les pouvoirs sont partagés et où le pouvoir économique n'est pas entre les mains du pouvoir politique comme en Chine. Et de ce point de vue-là, je voudrais prolonger ce que disait Thomas Gomard sur l'enjeu pour l'avenir de la 5G. Mais pourquoi est-ce que les Chinois se priveraient de pousser leur avantage? La crise actuelle fait la démonstration qu'en 20 ans, ils sont devenus la pharmacie du monde. Ils sont devenus la pharmacie du monde avec les Indiens, mais enfin, c'est eux les leaders. Pourquoi? Parce que les industries pharmaceutiques et médicales ont décidé de délocaliser en Chine leur production. Le coût du travail y était beaucoup plus bas et les normes environnementales beaucoup plus légères. Et alors, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité de l'État dans cette affaire. Il y a eu une négligence depuis 10 ans, c'est une évidence. Mais il faudrait quand même pas exonérer les industries pharmaceutiques de leur propre responsabilité. Et c'est assez stupéfiant, enfin ou singulier en tout cas, de voir. Je lisais la déclaration d'un responsable de l'industrie pharmaceutique, des entreprises du médicament, il y a quelques jours, qui expliquait assez benoîtement la question de la relocalisation de la production en Europe est pertinente. Ah oui, c'est intéressant. Et il ajoutait, on va s'en saisir. Mais il ajoutait aussi. Pour avancer, il faut un grand plan national d'indépendance sanitaire accompagné de conditions économiques et fiscales encourageantes. Je trouve quand même assez formidable que, comme toujours d'ailleurs dans ce genre de situation, les accros du cash flow deviennent d'un seul coup les face-appel à l'État et que l'État, qui était jusqu'à présent le problème, devienne d'un seul coup la solution.
Thomas Gomard, je vous imagine sourire à ce que vient de dire Gérard Courtois.
Non, mais ça me semble effectivement très une observation très très juste. Je pense qu'en fait, on sort d'une période où l'ensemble des business models reposaient sur l'hyper-rotation des actifs financiers, voilà, et qu'on avait oublié la nécessité de constituer des stocks. Sauf que constituer des stocks, bah, ça a un coût, que c'est pas ce qu'on a enseigné dans les business schools effectivement depuis 30 ans, et qu'il y a, à mon avis, une réflexion à avoir sur qu'est-ce que sont des stocks stratégiques ou qu'est-ce que sont des secteurs stratégiques. Je pense pas du tout qu'il faille imaginer une relocalisation complète, parce que la relocalisation, c'est pas uniquement les Européens qui vont relocaliser, les autres aussi vont relocaliser. Je rappelle de ce point de vue-là que l'Union européenne est aussi la zone qui attire le plus d'investissements dans le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, en termes de production de richesses, a bénéficié de cette mondialisation, fondamentalement. Après, la répartition est une autre question. Mais l'image ou l'idée sur laquelle on pourrait, sur un claquement de doigts, rapatrier des chaînes de valeur, comme effectivement, on lit pas mal de choses dans ce sens, me semble très irréaliste. En revanche, ce qui me semble moins irréaliste, c'est d'identifier très précisément les secteurs sur lesquels on ne peut pas accepter d'être dans ce degré de dépendance. Alors, très probablement le sanitaire, après cette continuité, très probablement l'alimentaire. Et de ce point de vue-là, les Européens ne sont pas du tout les plus mal placés. Je pense qu'il y a un sujet éminent, j'en ai déjà parlé, sur le numérique. D'une certaine manière, aujourd'hui, le souverain, c'est celui qui a les données, beaucoup plus que la force militaire. Et aujourd'hui, quand on lit les aspirations, enfin les projets de l'Union européenne, c'est précisément de constituer, je cite le livre blanc sur l'intelligence artificielle, des réserves de données. Donc, ça montre bien qu'on revient aussi dans une logique de stock. Et j'ajouterai pour finir, évidemment, le militaire. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autonomie, il n'y aura pas d'autonomie si le militaire n'en sort pas aussi renforcé. Donc, à mon avis, plutôt qu'un grand découplage, une grande relocalisation, il faut s'attendre à des acteurs économiques qui font ça de manière très spécifique sur des secteurs particuliers.
Vous partagez cette vision des choses, Philippe Manière ?
Oui, enfin, d'abord, s'il y a des éléments de sous-optimum, il faut les corriger, mais il faut être bien conscient qu'en matière économique et parlant de ces masses d'investissements qui se sont faites en Chine depuis longtemps, les choses ne vont se faire que progressivement. C'est toujours la même chose. Le flux, même si on le veut important, est tout petit par rapport au stock. Donc, appelons ce qu'on veut de nos voeux, mais ne rêvons pas au fait que demain ou après-demain, les choses seront sensiblement différentes. On peut imaginer une inflexion, mais encore une fois, les résultats en seront progressifs. Maintenant, sur les stocks, je crois qu'il faut vraiment complètement déconnecter, et j'entends souvent que les gens font de la confusion, ça me navre un peu dans le débat public, la question des stocks et la question de l'origine. Vous vous doutez bien que, par exemple, les Allemands qui ont beaucoup de masques et dont on se demande comment ils ont fait pour en avoir pendant qu'on n'en avait pas, ils ne les ont pas roulés sous les selles ou fabriqués dans leurs usines ultramodernes. Ils les ont presque comme tout le monde, presque tous achetés en Chine. Quand vous avez des stocks stratégiques de pétrole, et la plupart des grands pays de l'OCDE en ont, ça n'est pas parce qu'ils font du pétrole chez eux. Chacun sait bien qu'on ne fait pas de pétrole en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis maintenant, oui, mais pendant très longtemps, il fallait importer le pétrole pour constituer les stocks. Et c'est la règle pour la plupart des grands pays, le Japon par exemple. On peut tout à fait avoir des stocks qui permettent de faire face à la nécessité, à la pénurie, et c'est ce que tous les grands pays ont fait dans beaucoup de domaines. Je parlais du pétrole, il n'y a pas que celui-ci, mais celui-ci est particulièrement spectaculaire, sans du tout être producteur soi-même. Donc il y a peut-être des cas où il faut rapatrier la production, je n'en disconviens pas. Ils sont certainement beaucoup moins nombreux que ce qu'on entend aujourd'hui, où tout à coup on nous dit qu'il faudrait faire le Doliprane en France à toute nécessité. Ça me paraît un peu exagéré. Les Chinois ont un intérêt très fort à nous vendre du Doliprane, et si on a besoin de Doliprane, il est assez probable qu'ils nous le vendent. Enfin, je veux dire, l'idée selon laquelle il n'y aura plus de Doliprane un jour en France parce que ce sont les Chinois qui le fabriquent est une idée assez folle. Ils ont intérêt à nous le vendre, c'est facile à fabriquer, ils en font des quantités considérables, ils sont habitués à nous le vendre, il y a très peu de risques de pénurie. Mais pourquoi ne pas constituer des stocks de paracétamol? Après tout, moi je n'y suis pas hostile, mais on peut constituer des stocks absolument nécessaires dans certaines circonstances qu'on n'aurait pas dû sacrifier, on le sait, s'agissant par exemple des masques, sans du tout être producteur. Donc il faut vraiment distinguer les deux. Peut-être faut-il rapatrier certaines productions. Ce qui est important surtout, c'est que, où que ce soit fait, un certain nombre de choses doivent être, où qu'elles soient fabriquées, un certain nombre de choses doivent être stockées chez nous pour faire face à l'imprévu et typiquement à ce genre de phénomène.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Pour conclure cette émission, j'aimerais bien vous faire réagir à ce que disait notre ami géopolitologue Bertrand Badi cette semaine, invité de notre matinale, qui sera d'ailleurs des nôtres dimanche prochain, qui parlait d'un contexte au fond d'hypernationalisme mondial, dans un moment où il faudrait au contraire jouer collectif. Il expliquait comment nous affrontons des menaces communes qui impliqueraient une gouvernance mondiale. Il expliquait pourquoi l'équation souverainiste ne marche pas, selon lui. Est-ce que vous pensez en effet que c'est la logique de ce qu'il appelle l'hypersouverainisme qui va l'emporter ces prochains mois, Thomas Gomard, ou au contraire, le retour, parce qu'ils seront incontournables, de ces solutions collectives?
Je pense que ça sera les deux, mais je ne vois pas non plus une solution globale. En fait, en période de crise, vers qui se tourne-t-on? C'est une manière de répondre à la question. Et on ne se tourne pas vers l'OMS. Ça, c'est une réponse à Bertrand. On se retourne vers les autorités nationales de manière très spectaculaire, en réalité. Et ça me conduit, moi, à conclure en reprenant l'idée initiale de Philippe. On est, en fait, dans une situation où on n'est pas face à une mortalité extraordinaire. Mais on a pris des mesures extraordinaires. Précisément, les autorités publiques ont pris des mesures extraordinaires. Et c'est ça, à mon avis, qui singularise cette crise. C'est-à-dire que les démographes comparent toujours mortalité extraordinaire et mortalité ordinaire. Ce qu'on est en train de vivre en termes de mortalité ne se verra pas sur la pyramide des âges. Mais ce qui va se voir, c'est le fait que des mesures de cette amplitude ont été prises par des autorités publiques. Et de ce point de vue-là, ça traduit, à mon sens, pas l'impuissance, mais une capacité d'agir des autorités publiques.
On va quand même rappeler les chiffres au moment où nous parlons. Dans le monde, c'est à peu près 150 000 morts, 37 000 morts aux États-Unis et près de 19 000 morts en France.
Oui, bien sûr, il y a ces chiffres, mais il y a aussi, en plus, n'oublions pas qu'il y a en plus de la crise sanitaire, une crise économique énorme qui se profile. Et là, les chiffres vont prendre une autre dimension parce qu'il peut y aussi y avoir une mortalité à la suite comme conséquence de cette crise économique. Donc, pour reprendre la question que vous posiez sur le choc entre mondialisme et nationalisme ou hyper-nationalisme, ce réflexe nationaliste auquel on a assisté, bien sûr, il existe. Et bien sûr, on assiste aussi actuellement à un dérèglement total de la gouvernance mondiale. On voit bien que le G7 est en échec total, l'Union européenne a du mal, l'OMS est en crise. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, nous ne sommes pas au bout de la crise. Qui va être le suivant? On a eu une crise sanitaire qui est partie de Chine, qui est venue en Europe, qui est allée en Iran, qui est venue en Europe, qui est maintenant dans l'épicentre et maintenant aux États-Unis. Quand est-ce que ça va toucher l'Afrique? Dans quelle proportion? Et là, je crois que des organismes internationaux comme le FMI et la Banque mondiale vont tout d'un coup reprendre toute leur pertinence, parce qu'on va avoir besoin à nouveau de mécanismes à l'échelle mondiale pour gérer cette crise qui effectivement est mondiale. Donc n'enterrons pas trop vite, je crois, ni la mondialisation, ni la gouvernance mondiale, ni l'Europe d'ailleurs, mais il est évident que le choc est extrêmement brutal et va imposer des transformations.
Gérard Courtois, en guise de conclusion.
Je vais être encore plus optimiste que Sylvie. Je vois pas pourquoi, enfin, on peut espérer en tout cas que cette crise redonne des arguments aux régulateurs contre les dérégulateurs, aux partisans d'une coordination nécessaire contre les partisans d'un nationalisme délétère. On peut l'espérer, y compris en Europe et notamment en Europe.
Merci beaucoup Gérard Courtois, Sylvie Kaufmann, Thomas Gomard, Philippe Manière. On ne se quitte pas sans vous, cher Emmanuel Laurentin, je le disais au début de cette émission, avec la conversation mondiale. Vous faites plancher des intellectuels de tous les continents sur cette période historique que nous vivons. Et pour nous, vous avez sélectionné deux textes, je crois, ce dimanche.
Exactement. Bonjour, Émilie. Et puisque vous parliez de puissance et d'impuissance des politiques dans la crise, j'ai choisi deux textes très différents. D'abord, celui de l'anthropologue Abdel Wedoud Oulchir. Il nous parle de la Mauritanie et il avance que cet espace géographique très contraint du Sahara a conduit souvent, en cas de crise, à des mobilisations collectives ou au relent millénariste. réaffirmant la faiblesse des hommes face à la volonté de Dieu. Mais cette fois-ci, dit-il, une autorité gouvernementale, celle de Mauritanie, donc affirme avoir les choses en main et dicte des attitudes et des gestes de prévention, décrète le couvre-feu, la fermeture de lieux publics et une certaine limitation des circulations dans un pays où, il faut le dire tout de même, la majorité de la population vit au jour le jour. Mais ce même gouvernement, dit-il, s'appuie sur l'évergétisme traditionnel, sur la demande aux plus riches de faire preuve de compassion et de charité, curieux mélange donc des pouvoirs entremêlés qui exigent la fermeture des mosquées, par exemple, et confortent en même temps les autorités religieuses dans l'idée que cet être microscopique, le coronavirus, est envoyé par Dieu pour montrer son pouvoir. Autre regard et autre contexte, toujours tiré de cette conversation mondiale, celui de l'Allemagne. Nous avons demandé au cinéaste Volker Schlöndorff son avis sur cette crise et sa première réaction a été l'étonnement. Étonnement face à ce qu'il qualifie d'expérimentation géante. Qui aurait pu imaginer, dit-il, que nous partagerions la même expérience que des milliards d'autres êtres humains? Étonnement également face à ces Français qu'il connaît bien et qui sont connus pour leur caractère rebelle et qui pourtant respectent si bien le confinement. Étonnement également devant une humanité raisonnable, dit-il, qui n'a pour l'instant lancé d'émeutes ou de pillages de magasins, qui sont pourtant l'accompagnement habituel des grandes crises. Étonnement et soulagement, oui, soulagement aussi de voir, dit-il, le système mondial arrêté d'un coup, nous obligeant à appuyer sur pause et à réfléchir à une mondialisation vécue d'une autre manière, mais aussi à faire le constat qu'en Europe, la réaction, les réactions ont été très différentes entre la France et l'Allemagne, bien sûr, mais aussi au sein même de l'Allemagne, et il précise que la Bavière confine aussi sévèrement que la France, tandis qu'en Westphalie, on est libre de se déplacer, ce qui l'interroge justement sur la solidarité entre Européens. Et pourtant, contrairement à ce qui a été dit dans votre émission par les intervenants précédents, eh bien Volker Schlöndorff reste optimiste et pense que l'Allemagne est en train de changer et d'adopter majoritairement une solidarité plus grande avec les pays du sud de l'Europe en acceptant, par exemple, dit-il, une mutualisation des dettes, ne serait-ce que par intérêt propre d'un pays d'exportation qui veut continuer à vendre ses produits à ses voisins. Voilà, Émilie.
Merci, Volker Schlöndorff, plus optimiste que Thomas Gomard. Alors, merci beaucoup, Emmanuel Laurentin. Merci à Marine Beccarelli, qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Milena Hellig, qui l'a réalisée. Un très grand merci à Jean-Marc Claus, qui est notre chef d'orchestre en ce moment et qui rend possible ces émissions. Et bien sûr, merci aux équipes techniques de Radio France et au magique CDM.
J'avais dessiné.
Nous nous quittons avec Christophe, mais oui, sur l'antenne de France Culture. Vous le savez, le chanteur est mort jeudi à l'âge de 74 ans. Alors évidemment, on va se quitter avec Aline, son slow mythique de l'année 1965, dont il disait « c'est la plus belle de mes chansons ». Et nous sommes bien d'accord avec lui. Tant pis pour vous si vous préférez les mots bleus. On a eu un vrai débat à ce sujet avec la direction éditoriale de France Culture. Alors crions Aline et juste après, nous crierons Caroline. Caroline Brouet et ses bonnes choses qui nous donnera une irrésistible envie de pâtisserie réconfortante avec Philippe Conticini, grand chef pâtissier qui a révolutionné les desserts. Je crois qu'il y aura beaucoup de chocolat. Et quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, dimanche 11h. Excellente semaine à l'écoute de France Culture. Sachez que dès demain matin 7h, mon camarade Guillaume Erner reçoit l'anthropologue Philippe Descola. Soyez au rendez-vous, prenez soin de vous, restez chez vous.
Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié.